Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co, Quentin Barenne qui est là. Bonsoir Quentin.
Bonsoir François.
Vous êtes le cofondateur de Wintix et Pierre-Arnaud Coquelin aussi est avec nous. Bonsoir Pierre-Arnaud.
Bonsoir François.
Et vous êtes le fondateur de Weir. Alors, vous êtes deux startups qui travaillaient dans deux, on va dire, domaines différents. Wintix est plutôt dans les caméras de surveillance. Et vous, Pierre-Arnaud, vous êtes plus sur tout ce qui est géolocalisation indoor et outdoor, je crois bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, on voulait vous réunir ce soir, c'est que au départ, et on va commencer par vous, Pierre-Arnaud, vous deviez participer au JO avec votre technologie.
Tout à fait. Hein? Pas participer en tant qu'athlète, j'aurais bien aimé.
C'est vrai qu'en plus vous êtes taillé pour. vous auriez eu la médaille d'or tout de suite. Mais votre technologie aurait dû être déployée pour un test en collaboration pendant les JO, et patatras, ça s'est pas fait.
Alors patatras, c'est un grand mot, mais... Effectivement, oui. On devait équiper un grand opérateur de la sécurité de la plateforme parisienne durant les JO. Donc concrètement, d'abord, je peux dire à quoi servent nos capteurs.
On Bien sûr, allez-y. Et vous êtes basé à Montpellier.
Tout à fait. On les met sur des personnes en intervention, donc par exemple des pompiers, le GIGN, le RAID ou d'autres personnes en intervention. Et là, on met des antennes qu'on place dans Paris. Par exemple, 23 antennes suffisent pour déployer tout Paris.
Mais c'est des petits capteurs qu'on pose sur nous. Ils ressemblent à quoi ces capteurs ?
Ça fait la taille d'un téléphone, en gros, au final.
Okay.
Voilà. Et la grande particularité, c'est que ça permet de localiser dehors comme un GPS, mais surtout dedans, dans les sous-sols, les parkings et dans tous les bâtiments, y compris bien sûr les stades.
Avec des émetteurs qui sont alentour.
C'est okay. Ça, exactement. 23 émetteurs dans tout Paris. Donc c'est un peu comme un émetteur de radio ou de télé. Ça émet loin, à plusieurs kilomètres, et ça traverse 50 mètres de béton. D'où l'intérêt pour toutes les personnes qui interviennent en intérieur et l'intérêt pour les Jeux Olympiques, pour pas mal de forces de sécurité.
Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Enfin, vous savez pourquoi cette expérimentation s'est pas faite finalement?
Oui, tout à fait.
C'est quoi? C'est un problème de timing? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est notre choix en fait. On n'était pas totalement prêt pour cette date-là.
Okay.
Et on a préféré reporter ça à septembre. Et très concrètement, on équipera les mêmes personnes, mais après les JO.
Bon, finalement, ça fait quelques semaines de décalage.
Ça.
Vous avez été créé en 2021. Vous dites que votre technologie n'était pas tout à fait prête. Vous avez levé 11 millions d'euros en septembre 2023. Hein. C'est pas mal quand même.
Oui.
Vous n'étiez pas prêt, pourquoi? Parce que c'est compliqué à mettre en place toute cette technologie?
Alors oui, c'est un système très 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 innovant. Moi, c'est ma troisième entreprise. La première était dans l'IA pour la donnée pour le retail. La seconde dans le GPS pour le sport de haut niveau. On équipait la Ligue 1 et le Top 14. Et là, c'est vraiment un cran au-dessus. C'est de la deep tech hardware. C'est la première fois au monde qu'une entreprise arrive à traquer des objets à l'intérieur derrière 10, 15, 20 mètres de béton. Et effectivement, à mettre au point, c'est beaucoup de boulot. On est 30. On travaille dessus depuis maintenant 5 ans. Et la version industrielle, et on livre nos premiers clients en septembre.
D'accord.
Mais en fait, mars, c'était un peu court.
Oui. Et oui, parce qu'il fallait être prêt en mars, j'imagine, pour la pétition, pour tout ça, etc. Vous avez un calendrier quand même assez ambitieux, hein. Vous prévoyez une nouvelle levée de fonds en 2025 pour pénétrer aussi le marché américain avec votre technologie. Et 2027, vous lancerez une nouvelle technologie qui permettra de développer une innovation liée à cette géolocalisation, c'est ça?
Alors, pour être précis, en fait, l'ambition de Weir, on a inventé une technologie de géolocalisation. C'est un peu comparable à l'invention du GPS, finalement, il y a 30 ans. C'est un GPS.
Sauf que ça marche à l'intérieur, même dans
les
parkings, etc.
Ouais, et 95% de l'activité humaine étant à l'intérieur, forcément, c'est un intérêt fort.
C'est-à-dire que si vous aviez ce capteur-là, alors que, évidemment, on n'est pas à ciel ouvert, on pourrait vous détecter précisément.
Exactement.
Et avec quel degré de précision?
1 mètre, à peu près.
OK.
Voilà. Et l'idée, c'est de surtout pas s'arrêter là. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a un capteur qui fait la taille d'un téléphone. En 2026-2027, ce capteur, il va devenir tout petit. Il va faire 8 mm par 8 mm. Il sera un peu comme une puce Bluetooth. On pourra le mettre partout, sur tous les tournevis, sur tous les objets. Et en 2030, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir besoin de déployer des antennes pour couvrir une zone et de lancer notre propre constellation de satellites. Donc 350 satellites en orbite. On appelle ça le LEO PNT, donc Low Orbit. Voilà, et venir.
Mais il faudra toujours des émetteurs terrestres, non? Est-ce que les satellites suffiront pour pénétrer les 50 mètres de béton que vous évoquiez juste avant?
Exactement. En fait, c'est la technologie qui permet de pénétrer les 50 mètres de béton et de se localiser à 1 mètre près. Que ce soit sur Terre ou à 800 km de haut, ça marche exactement pareil. C'est
D'accord.
pas la proximité. Donc, l'ambition de Weir, c'est vraiment de lancer une constellation de satellites et d'être le leader mondial des solutions de géolocalisation. Indoor, outdoor, à horizon 2030.
Avec des métiers particuliers, les travailleurs isolés, contrôler l'accès aux zones sensibles, c'est ça ?
Exactement. Les usages à très court terme, c'est traquer des forces de sécurité, des travailleurs isolés en intervention. C'est beaucoup l'industrie 4.0. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais
oui, bien sûr.
Traquer des machines, des objets dans des usines déjà connectées, des grosses usines. On a beaucoup de demandes là-dessus. Et c'est aussi un peu la Smart City, avec des usages plus variés, le retail, l'entertainment, les voitures autonomes. Ça, c'est nos trois premiers marchés. Et à terme, j'entendais tout à l'heure parler de l'iPhone 15 ou 16, pliable ou pas. Dans l'iPhone 20, on y sera.
très bien. Mais en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, Pierre Arnaud. Alors, vous avez raté de peu les JO. Bah, finalement, ce n'est pas si important que ça. Mais notre deuxième invité, lui, ne l'a pas raté. N'a pas raté ces Jeux Olympiques. Quentin Barène, donc, le cofondateur de Wintix. Alors, vous, vous équipez les caméras de surveillance pendant les Jeux Olympiques avec votre technologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter Wintix ?
Oui. Wintix, c'est une société française. Notre métier, c'est développer un logiciel d'analyse vidéo qui est capable de se connecter sur toutes les caméras qui sont installées dans l'espace public, dans les gares, dans les aéroports, dans les stations de métro.
Donc vous vous pluguez à des caméras qui existent déjà, qui sont déjà là.
On se connecte aux caméras qui sont déjà là pour en analyser les flux et en tirer soit des statistiques, par exemple des comptages. On travaille beaucoup avec la ville de Paris pour compter les vélos parce qu'il y a une forte volonté de développer l'usage du vélo et nous on les compte avec des dispositifs rapides à déployer, les caméras qu'on rend intelligentes. Ou bien, deuxième possibilité, produire des notifications en temps réel à destination par exemple des forces de sécurité pour leur indiquer qu'il y a des événements anormaux qui peuvent se dérouler et c'est ce volet-là qu'on va déployer pendant les Jeux Olympiques.
Alors racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines maintenant avec votre technologie pendant les JO ? Où est-ce que vous allez installer votre solution et sur quel type de caméra ?
Alors pour donner un peu de contexte, il y a le ministère de l'Intérieur qui a lancé un appel d'offres afin de choisir un prestataire qui va proposer son logiciel pour l'analyse vidéo dans le cadre des Jeux Olympiques. Nous, on a remporté cet appel d'offres. Cet appel d'offres, il est encadré par une loi qu'on appelle la loi JO, qui permet de mettre en œuvre ce logiciel tout en protégeant la vie privée et les données personnelles de chacun.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez compter... Je vais passer, moi, dans la foule, vous allez me compter.
Ouais.
Mais vous n'allez pas savoir que c'est François Sorel.
On ne saura pas que c'est vous.
D'accord.
Et ce cadre, cet appel d'offres, il se fait dans le cadre d'une expérimentation qui met en œuvre 8 types d'applications. Je vais en donner quelques exemples. Dans les réseaux ferroviaires, donc dans les réseaux RATP, SNCF, on va compter les personnes sur les quais pour détecter des situations de suraffluence et envoyer des notifications aux équipes de sécurité de la SNCF et de la RATP. S'il y a des gens qui s'introduisent sur les voies ou qui tombent sur les voies, on va également le détecter. S'il y a un véhicule qui vient se garer devant l'accès pompier d'une enceinte sportive, on peut aussi le détecter pour envoyer une notification à des forces de sécurité pour les aider à être plus réactifs face à ces situations anormales. Le but, c'est d'aider des opérateurs vidéo qui ont énormément de caméras à regarder.
Bien sûr, qui ne peuvent pas tout regarder.
Qui ne peuvent pas tout voir, qui ne peuvent pas tout regarder.
Vous regardez à leur place.
Et nous, notre logiciel regarde à leur place et leur envoie des notifications quand il y a des levées de doutes à réaliser.
Est-ce que lorsque vous arrivez à compter une foule, vous avez un comptage précis ? C'est quoi les marges d'erreur, là ?
En fait, le sujet, en l'occurrence ici, il est plutôt de détecter des mouvements de foule, des niveaux d'affluence.
D'accord.
Pas forcément de dénombrer de façon extrêmement précise, mais plutôt de fixer des seuils et quand est-ce qu'on dépasse des seuils. Après, le marché du comptage, au-delà des Jeux Olympiques, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. On travaille avec beaucoup de collectivités pour compter les piétons, les vélos, les voitures. Et là, pour donner un ordre de grandeur, on dépasse les 97% de précision sur les comptages qu'on réalise pour le compte de collectivités.
Et donc pendant les JO, vous serez où ? Vous l'avez dit, sur les gares, les stations de métro, les choses comme ça ?
Ouais, ça peut être dans les réseaux ferroviaires, donc des stations de métro ou des grandes gares de la SNCF. Et ça peut être dans l'espace public, notamment aux abords des enceintes sportives, pour détecter s'il se passe des choses qui sont anormales et qui ont un intérêt à être notifiées pour des opérateurs vidéo.
Parce que c'est ça qui est intéressant, vous arrivez à détecter des comportements anormaux sur des vidéos, c'est ça ?
Plus que des comportements, c'est des situations. Est-ce qu'il y a un véhicule ou une personne qui s'introduit dans une zone, un périmètre qui est interdit ? Est-ce qu'il y a une personne qui oublie son bagage un quai de métro, par exemple ? Donc, on ne s'intéresse pas à des personnes, on s'intéresse à des situations.
Tout ça marche avec du deep learning, j'imagine.
Bien
c'est
sûr.
De l'IA. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Finalement, vous, ça fait des années que vous utilisez tout ça, parce que je crois que vous avez été créé en 2017.
Oui, exactement.
Est-ce que l'IA générative est un sujet qui vous intéresse, vous ? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de plugger une IA générative à des caméras, par exemple ?
Alors, c'est aujourd'hui, l'IA générative, c'est nettement plus consommateur en termes de serveurs, de ressources informatiques que ce que nous, on peut faire. Donc, il y aurait un vrai enjeu de passage à l'échelle sur ces technologies-là. Donc, on ne s'appuie pas sur l'IA générative pour faire nos analyses vidéo. En revanche, l'IA générative, elle ouvre un champ des possibles, notamment pour piloter notre logiciel. Aujourd'hui, vous voulez mettre en œuvre une analyse, vous prenez votre souris, vous dessinez une zone d'intérêt et vous y associez des règles. Mm-hmm. Peut-être que demain, en fait, notre logiciel, vous allez le piloter en écrivant un petit message « Cher Wintix, merci de paramétrer un comptage sur ma caméra 14 qui filme l'avenue de la République et de paramétrer une détection d'intrusion aux abords du Stade de France. » Et ça, ça peut ouvrir un univers des possibles qui va rendre encore plus accessible notre technologie à des gens qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les outils numériques.
Vous êtes prêt pour les JO, j'imagine ?
On est prêt.
Combien de caméras, en fait, vous allez scruter avec vos logiciels ? Il y en a beaucoup ?
Alors ça, il y en a plusieurs milliers dans des contextes différents. Certains encadrés par les sujets de la loi JO, d'autres plus pour des collectivités pour faire du comptage, notamment parce que les collectivités s'attendent à des pics d'affluence dans l'espace public et ça les intéresse de savoir est-ce que les JO ont drainé beaucoup de visiteurs et beaucoup de touristes au sein de la collectivité.
Et oui, après c'est l'héritage data de ces JO qui est phénoménal et qui va sans doute apporter beaucoup beaucoup de choses. Merci beaucoup Quentin Barenne, cofondateur donc de Wintix, et on vous souhaite voilà, plein de bonnes choses avec votre société.
Ah, merci à vous.
Se passe bien. Et merci aussi à Pierre-Arnaud Coquelin d'être venu nous voir depuis Montpellier, fondateur de WIR avec ce système de géolocalisation. Très intéressant. Et bien voilà, c'est avec toutes ces belles innovations que se termine ce Tech & Co ce soir, en ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et on sera de retour, bien sûr, lundi dès 20h en direct à la radio, à la télé. À bientôt.